VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Louis Gémillon à ce micro au sommaire de cette édition du Monde Aujourd'hui, ce jeudi 11 mai 2023. Élections législatives et locales en Mauritanie, samedi un test majeur avant la présidentielle de 2024. Au Soudan, l'ONU appelle à faire pression par tous les moyens pour résoudre la crise. En Guinée, plusieurs activistes de la société civile sont sortis de prison mercredi soir.
Il va prendre quelques temps, il va organiser donc encore d'autres grèves qui seront plus mortelles que ce qu'on a vu hier. Donc moi je préfère qu'il y ait une assise sur la table ronde pour qu'on se donne des idées concernant l'arrêt total sur toute l'étendue du territoire guinéen, des grèves qui sont sanglantes, qui ne font que des pertes de vie humaine.
Compte rendu de notre correspondant à Conakry dans la partie magazine. Washington lève aujourd'hui des restrictions à sa frontière sud, un afflux de migrants attendu. Nouveaux échanges de tirs entre Gaza et Israël avec à la clé 25 morts en 3 jours. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les Mauritaniens se rendent aux urnes samedi pour des élections législatives locales. Ce rendez-vous marque un test crucial pour le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani à seulement un an de l'élection présidentielle. Les détails avec Eric Manirakiza.
La campagne bat son plein depuis le 27 avril à Nouakchott. Elle se déroule dans un climat apaisé en grande partie grâce à un dialogue entre l'opposition et le pouvoir en début d'année qui a permis d'aboutir à un consensus sur l'organisation des scrutins. 25 formations sont en lice pour briguer les suffrages de près de 1,8 million d'électeurs. Le scrutin vise à élire 176 députés, 15 conseils régionaux et 238 conseils municipaux. Un second tour est prévu le 27 mai pour la moitié des 176 sièges de l'Assemblée. Le parti au pouvoir, El Insaf, est le seul à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions, le plaçant largement en tête des favoris. Les principaux challengers d'El Insaf sont le mouvement islamiste Tewassul, premier parti d'opposition dans l'Assemblée sortante, et le Sawab, un parti nationaliste arabe qui a formé une alliance avec le militant anti-esclavagiste Biramda Abeid, qui était arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle, mais dont la formation n'est pas autorisée.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est rendu mercredi au Burkina Faso. Cette visite n'a pas été ouverte à la presse, mais selon la présidence burkinabé, M. Akufo-Addo a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition, pour évoquer des questions majeures de la sous-région confrontée aux défis sécuritaires. La visite du président ghanéen est intervenue 5 mois après une brouille diplomatique entre les deux pays consécutive à ses déclarations sur la présence du groupe russe Wagner au Burkina Faso. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé les pays à faire pression par tous les moyens possibles pour résoudre la crise au Soudan et mettre fin à cette violence injustifiée, selon lui. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les combats qui ont éclaté le 15 avril ont plongé le Soudan dans la catastrophe, a déclaré Volker Türk à l'ouverture d'une session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Je saisis cette occasion pour exhorter tous les pays ayant une influence dans la région à encourager par tous les moyens possibles la résolution de cette crise, a poursuivi le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Les affrontements entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les militaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont fait plus de 750 morts et 5000 blessés, selon des ONG et les autorités. Volker Türk accuse les deux parties d'avoir bafoué le droit humanitaire international, notamment les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Il affirme que son bureau a reçu plusieurs rapports faisant état de violences sexuelles commises par des hommes en uniforme et des allégations d'exécution illégale et de disparition forcée. Selon l'ONU, environ 900 000 personnes ont quitté leur maison vers des zones épargnées par les combats. 177 000 sont réfugiés dans les pays voisins. Le nombre de déplacés à l'intérieur du Soudan dépassait mardi les 700 000.
Au Tchad, l'attaque d'un village par des hommes armés dans le sud près de la frontière avec la Centrafrique, a causé la mort de 17 personnes. Lundi a annoncé aujourd'hui le parquet de Gorée. Les assaillants munis d'armes à feu et d'armes blanches sont arrivés sur place à bord de motocyclettes et de chevaux et ont assassiné plus d'une dizaine de villageois, incendiés des cases, enlevés des bœufs d'attelage et laissé sur leur passage plusieurs blessés évacués à l'hôpital de Gorée selon la même source. Le parquet a également annoncé avoir ouvert une enquête et diffusé un appel à témoins pour identifier les auteurs. L'ambassadeur américain à Pretoria a accusé aujourd'hui l'Afrique du Sud d'avoir fourni un soutien militaire à la Russie en dépit de sa neutralité déclarée dans le conflit avec l'Ukraine lors d'une rencontre avec les médias locaux. Selon Ruben Bridgetty, les États-Unis sont convaincus que des armes et des munitions ont été chargées à bord d'un cargo russe amarré près du Cap début décembre avant qu'il ne reparte vers la Russie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Washington et Pékin, brouillés depuis l'affaire des ballons chinois en février, ont renoué le contact diplomatique au plus haut niveau, a annoncé aujourd'hui la Maison-Blanche. Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, a rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, mercredi et ce jeudi à Vienne, a indiqué l'exécutif américain dans un contexte qui reste toutefois extrêmement tendu entre les deux grandes puissances lancées dans une compétition diplomatique, militaire, économique et technologique, tous azimés. Ici aux États-Unis, la mesure Titre 42 qui permettait aux autorités américaines de refouler immédiatement tous les migrants entrés dans le pays depuis le début de la pandémie va être levée ce soir. Ce changement provoque confusion et anxiété pour les milliers de migrants massés à la frontière avec le Mexique. Claire Morin-Gibou.
La levée de cette mesure est prévue à 23h59, heure de Washington ce soir, mais les traversées de migrants sont déjà en hausse. Même le président Joe Biden a reconnu que la situation serait chaotique. Pour tenter d'y répondre, l'État fédéral a mobilisé plus de 24 000 agents et forces de l'ordre à la frontière, en plus de 4 000 militaires. Confrontés au changement des dispositifs migratoires et aux rumeurs propagées par les passeurs, les migrants qui s'entassent dans le nord du Mexique témoignent d'un casse-tête procédural. De nouvelles restrictions au droit d'asile entreront en vigueur ce soir. Avant de se présenter à la frontière, les demandeurs d'asile, à l'exception des mineurs isolés, devront désormais avoir obtenu un rendez-vous sur une application téléphonique mise en place par les gardes-frontières ou s'être vu refuser l'asile dans un des pays traversés lors de leur périple migratoire. Dans le cas contraire, ils pourront faire l'objet d'une procédure d'expulsion accélérée, leur interdisant pendant 5 ans l'entrée sur le sol américain.
Le FMI s'est inquiété aujourd'hui de graves répercussions sur l'économie mondiale qu'aurait un défaut de paiement des États-Unis en l'absence d'un accord pour relever le plafond de la dette. Parmi les répercussions, la directrice Julie Kozak a cité des taux d'intérêt plus élevés, une instabilité plus large et des répercussions économiques. Démocrates et républicains sont engagés dans un bras de fer sur le relèvement du plafond de la dette américaine, une manœuvre législative indispensable pour que la première économie mondiale puisse continuer à emprunter et à payer ses factures, ses fonctionnaires et ses créanciers. Les échanges de tirs se poursuivent ce jeudi entre Israël et des groupes armés de la bande de Gaza au troisième jour d'une nouvelle escalade ayant fait 25 morts et 76 blessés, dont des islamistes armés en territoire palestinien. Nathalie Barge.
L'armée israélienne a dit avoir tué aujourd'hui 2 chefs du djihad islamique, Ali Ghali et Ahmed Abou Daka, portant à 5 le nombre de chefs islamistes tués depuis mardi. Les forces aériennes d'Israël ont visé aujourd'hui plusieurs sites du djihad islamique, dont un de lancement d'obus de mortier. De son côté, le djihad islamique a signalé de nouveaux tirs de roquettes vers Israël, où les sirènes d'alerte retentissent dans les localités adjacentes à la bande de Gaza. Dans la ville de Gaza, la plupart des commerces sont fermés et les rues désertes, tandis que des drones israéliens quadrillent le ciel. Se disant préoccupé par les tirs palestiniens, l'ambassadeur américain en Israël, Tom Nitz, a dit travailler en vue d'une désescalade rapide. L'effusion de sang doit s'arrêter maintenant, a déclaré la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, lors d'une rencontre avec ses homologues français, jordaniens et égyptiens à Berlin.
Muharrem İnce, l'un des quatre candidats à l'élection présidentielle turque du 14 mai, a annoncé aujourd'hui le retrait de sa candidature. Plusieurs cadres de son parti avaient démissionné ces derniers jours, s'inquiétant que la candidature de M. İnce empêche Kemal Kılıçdaroğlu, principal candidat de l'opposition, de l'emporter face au président Erdogan au pouvoir depuis 20 ans. Kemal Kılıçdaroğlu, candidat d'une alliance réunissant six partis de l'opposition, est donné en bonne posture face au président Erdogan, confronté pour la première fois en 20 ans à une opposition unie. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Talani.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a clos le projet Bisalubia Kidzunu, ou Action pour la paix, qui portait sur le développement économique de 20 villages des districts de Kindamba et Mayama dans le Pool, avec environ 1,2 million de dollars américains. Lancé en 2021, le projet a permis de créer près de 121 groupements économiques et a mobilisé plus de 35 millions de francs CFA en épargne et crédits internes. Le but était de prévenir les violences futures à travers des activités productrices des revenus. L'Afrique du Sud a urgemment besoin d'énergie en ce moment pour affronter une crise énergétique, a déclaré ce jeudi le président Cyril Ramaphosa. Le pays est aux prises avec les pires pannes d'électricité jamais enregistrées par le service public Eskom, qui provoquent des délestages quotidiens de plus de 10 heures chez certains ménages et entreprises. La situation a aussi causé la chute de la monnaie locale, le rand, qui a atteint son niveau le plus bas en 3 ans. Pour terminer, le torchage ou brûlage du gaz dans le monde a diminué de 5 milliards de mètres cubes pour atteindre 139 milliards de mètres cubes, soit son niveau le plus bas depuis 2010, surtout au Nigeria, aux États-Unis et au Mexique, indique la Banque mondiale. C'est une baisse bienvenue, en particulier à une époque où de nombreux pays s'inquiètent de leur sécurité énergétique, déclare la Banque mondiale. Elle encourage tous les producteurs à exploiter différentes options pour mettre fin au brûlage du gaz, pratique polluante et source de gaspillage.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Suite des matchs des quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans ce soir en Algérie.
Oui, le Mali, double champion, poursuit sa quête d'un troisième titre face au Congo. À Alger, le dernier quart de finale opposera le Nigeria au Burkina Faso. Hier, dans les premiers quarts de finale, le Sénégal, qui a surpassé ses concurrents en phase de poule, a pulvérisé l'Afrique du Sud 5-0, dont un doublé d'Amara Diouf. Dans le duel attendu entre le Maroc et l'Algérie, les Lyonceaux marocains se sont imposés 2-0 pour filer en demi. C'est la première fois de son histoire que le Sénégal décroche une place en demi-finale de la CAN des moins de 17 ans. Les Lyonceaux sénégalais et marocains se qualifient du même coup pour le mondial de leur catégorie prévu à la fin de cette année 2023.
Demi-finale allée de la Coupe CAF, toujours hier sur le continent.
Les Tanzaniens de Young Africans ont pris une sérieuse option pour la finale en dominant à domicile les Sud-Africains de Marumo Gallant 2-0. Le Burkinabé Stéphane Azizki et le Ghanéen Bernard Morrison sont les buteurs. Dans l'autre demi-finale, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa et les Algériens de l'USM Alger se sont neutralisés 0-0. La rencontre retour se jouera dans une semaine dans la capitale algérienne.
Basketball avec les playoffs NBA qui se poursuivent. Les Warriors restent en vie, les Lakers craignent pour Davis.
Golden State, ressoudé collectivement autour de Stephen Curry, a réduit l'écart à 3-2. En demi-finale de conférence Ouest face aux Lakers, 121-106, les Knicks, également dos au mur, en ont fait de même contre le Heat, 112-103. Bagassi Koura.
Plus que la défaite au cours d'un match où ils ont souvent subi l'agressivité du champion en titre, c'est le sort d'Anthony Davis qui est de nature à inquiéter les Lakers. L'ailier a dû quitter ses coéquipiers à 7 minutes de la fin après avoir reçu un coup de coude involontaire sur la tempe de la part de Kevon Looney. Sans leur intérieur ultra dominant, les Lakers seraient considérablement amoindris, même s'ils peuvent compter sur leur leader LeBron James, 25 points, 9 rebonds. De leur côté, les New York Knicks ont retrouvé des couleurs en parvenant enfin à forcer le verrou défensif du Heat. Golden State et New York doivent à présent l'emporter à Los Angeles et Miami vendredi pour rester en vie dans ces playoffs et ensuite disputer un match numéro 7 décisif à nouveau sur leur parquet dimanche. Le chemin est donc encore long avant de pouvoir renverser la situation après avoir été mené 3-1, chose qui s'est produite à 13 occasions dans l'histoire. Les Warriors y étaient parvenus en 2016 aux dépens d'Oklahoma City avant de subir le même sort en finale face aux Cavaliers de LeBron James.
Page des sports VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, plusieurs activistes de la société civile sont sortis de prison mercredi soir grâce à l'implication des chefs religieux. Leur libération était l'une des conditions posées par les forces vives de Guinée pour leur participation au dialogue. On fait le point avec notre correspondant, Zakaria Camara.
Le coordinateur du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution et ses collègues sont enfin rentrés à la maison dans la nuit de mercredi après 10 mois de détention sans jugement. Une sortie de prison rendue possible grâce à l'implication des chefs religieux. Ce citoyen rencontré dans la banlieue de Conakry pense que la crise est loin de son épilogue.
Malgré sa libération, cela ne va pas empêcher aussi que les grèves continuent en Guinée. Il va prendre quelques temps, il va organiser donc encore d'autres grèves qui seront plus mortelles que ce qu'on a vu hier. Donc moi je préfère qu'il y ait une assise sur la table ronde pour qu'on se donne des idées concernant l'arrêt total sur toute l'étendue du territoire guinéen des grèves qui sont sanglantes, qui ne font que des pertes de vies humaines.
Cette libération est faite au soir d'une journée de violence à Conakry, faisant 7 morts, selon les organisateurs d'une marche pour réclamer un dialogue inclusif pour un retour à l'ordre constitutionnel. Alpha et Yaya, deux enseignants, nous donnent chacun sa lecture de la situation.
Il a fallu la manifestation d'hier des forces vives de Guinée pour que justement les autorités se rendent compte qu'il y a de l'électricité dans l'air et qu'il fallait absolument les libérer pour ne pas que la situation puisse s'enflammer davantage.
Il y a deux façons de voir cette libération de Faure Kembenge. D'abord, c'est une bonne chose parce que ça permet de décrisper la situation sociopolitique. Mais de l'autre chose aussi, ça prouve que notre justice est sous ordre de la junte.
Les forces vives de Guinée n'ont pas encore annoncé leur retour dans les pourparlers avec le Premier ministre. Reste à savoir quelle sera la prochaine étape pour les religieux afin de rendre possible le dialogue avec tous les acteurs sociopolitiques. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Au Nigeria, les groupes de défense des droits exhortent les autorités à suspendre la réinstallation des personnes qui ont fui les militants islamiques dans le nord-est du pays. Les autorités de l'État du Borno ont déplacé la plupart des camps de personnes déplacées, mais les critiques affirment que la sécurité et les besoins fondamentaux de ces personnes ne sont pas satisfaits. Reportage de Timothy Obiezu depuis Maïdougouri au Nigeria, rendu par Nanit Talani.
Zara Malam vivait dans un camp de fortune à Maïdougouri depuis 2017 lorsqu'elle a fui des attaques contre son village de Sigal. Mais en juin, le gouvernement de l'État de Borno a fermé le camp et a proposé de réinstaller les personnes déplacées à l'intérieur du pays dans leur région d'origine. Malam confie qu'elle n'était pas convaincue de sa sécurité. Alors, elle a déménagé à Rane, une communauté abritant des milliers de personnes déplacées sous surveillance militaire constante.
Le gouvernement nous a aidés, mais depuis qu'ils ont décidé de nous renvoyer chez nous, je suis venu à cet endroit. Même s'il n'y avait pas de menace à la sécurité, je n'ai personne à retrouver. Tous mes proches sont morts.
L'État de Borno est l'épicentre de la bataille exténuante de près de 15 ans contre les militants armés au Nigeria. Les autorités de l'État ont commencé à fermer les camps en mai 2021 et ont soutenu les évacués avec de la nourriture et de l'argent. Le gouvernement souhaite s'appuyer sur l'amélioration de la sécurité ces dernières années pour reconstruire l'État de Borno et réduire sa forte dépendance à l'aide. Mais le groupe de défense des droits humains, Human Rights Watch, estime qu'environ 200 000 personnes déplacées pourraient être affectées négativement et souhaitent que le gouvernement d'Abuja examine les conséquences de ces actions. Agnetti Ewang est chercheuse à Human Rights Watch.
Nous sommes également très inquiets que cette action puisse aller au-delà de Maïdougouri et mettre en danger de nombreuses autres personnes déplacées à travers l'État qui a subi l'impact dévastateur du conflit Boko Haram.
Seuls 15% des déplacés internes étaient disposés à déménager du fait de l'amélioration de la sécurité, indique une enquête de l'Organisation internationale pour les migrations. L'enquête montre également que près de 50% des évacués sont retournés dans leur village d'origine parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mathias Schmalé est le coordinateur résident et humanitaire de l'ONU.
Nous comprenons d'une part les intentions derrière cela, mais nous nous inquiétons bien sûr de savoir si les 130 000 déplacés dénombrés jusqu'à présent se sont retrouvés dans un meilleur endroit. Ces types de mouvements de personnes doivent être volontaires, dignes et basés sur des choix éclairés.
De nombreuses organisations humanitaires ont interrompu les distributions de nourriture et d'argent après que le gouvernement a annoncé la fermeture des camps. Des groupes d'aide à Borno, comme Action contre la faim, soutiennent qu'ils voient déjà de graves problèmes de malnutrition. Ahmed Odewale est le chef adjoint de la nutrition du groupe.
Les rapports provenant de nos différents supports dans les formations sanitaires ont montré une augmentation constante du nombre de cas, même si nous ne sommes pas en période de soudure.
Pour l'instant, beaucoup ici espèrent simplement que le gouvernement ne fermera plus de camps.
Le député allemand d'origine sénégalaise Karaba Diaby a été récemment victime d'une attaque raciste et criminelle qui a visé son bureau. Dans cet entretien avec Eric Manirakiza, il partage son ressenti sur cet incident et aborde aussi son rôle dans la lutte contre le racisme en tant que député.
Les faits se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 mai. Il s'agit donc d'un incendie criminel. C'est à 22h30 que la police nous a informé du départ d'incendie au bureau dans la circonscription électorale à Halle. C'est une nature criminelle, cet incendie. Un produit inflammable a été utilisé pour accélérer la propagation de ces flammes. Bon, la police et les pompiers sont intervenus rapidement, ce qui a permis d'éviter le pire. Bon, auteur de ces faits, c'est une personne qui est connue de la police et moi aussi je le connais depuis un an. Voilà, un homme contre lequel j'ai porté plusieurs fois la plainte et l'acte qu'il a fait ce jour-là, c'était cet incendie. Donc, il s'est passé donc le 3 mai dernier.
Avez-vous déjà reçu des menaces auparavant en tant que député et comment vous gérez ces situations?
Bon, disons, avec le développement que nous suivons tous dans les réseaux sociaux, bon, beaucoup d'élus, que ce soit sur le plan local, que ce soit fédéral, sur le plan national ici, il y a très souvent des menaces. Bon, dans mon cas, depuis 2013, il y a régulièrement donc des menaces de la part d'un petit groupe de personnes dans ce pays et qui s'agitent et qui sont partout dans les réseaux sociaux et qui interviennent très souvent aussi à des actes assez criminels.
Ces incidents sont donc fréquents et comment pouvez-vous contribuer à lutter contre le racisme dans votre rôle de député?
On parle d'un groupe qui est une minorité dans cette société. La grande majorité de la société est pour une société ouverte, pour la démocratie et la tolérance dans notre société. La preuve, c'est que moi, j'ai été élu 3 fois successivement dans ma circonscription électorale de Halle. Et la fois dernière, donc, j'ai eu le meilleur résultat de tous ceux qui ont porté leur candidature pour entrer au Parlement. Donc, ça veut dire que la grande majorité de la population est derrière moi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas négliger ça. Il faut toujours porter plainte. Et je suis très fier d'appartenir à une coalition aussi bien dans l'ancienne coalition, la grande coalition avec les conservateurs, mais aussi dans la coalition actuelle avec les libéraux et les verts. Le gouvernement lutte très efficacement contre le racisme et la xénophobie, contre l'extrême droite. Le combat continue, ça dure, ça continue, mais il faut toujours donc faire savoir que le racisme n'a pas de place dans notre société, la xénophobie n'a pas de place dans la société. Donc tout faire pour combattre ça, très souvent qui montre l'intimidation. Donc il faut tout faire pour ne pas tomber dans ce circuit et toujours montrer que la population, la grande partie de la population est contre la xénophobie et qu'ils sont solidaires.
C'était Karamba Diaby, député allemand d'origine sénégalaise. Vous pouvez suivre l'intégralité de cet entretien sur nos plateformes digitales. Au Togo, les partis politiques de l'opposition et les associations de la société civile sont vent debout contre la manière dont le recensement électoral en vue des élections législatives et régionales s'est déroulé dans la zone 1. Ils dénoncent des dysfonctionnements observés et réclament une meilleure organisation du recensement qui commence ce samedi dans la zone 2. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosso.
Quelques heures après le recensement électoral dans la zone 1, comprenant Lomé et les localités de la région maritime qui comptent le tiers de la population togolaise, plusieurs partis politiques de l'opposition dénoncent la mauvaise organisation de l'opération qui n'a pas permis à tous les Togolais de la zone de posséder leur carte d'électeur. Kafuya Djamagbo est la coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple.
C'est un recensement qui ne s'est pas du tout bien passé. La CENI n'a pas été à la hauteur et on a laissé sur les carreaux une partie importante de nos compatriotes. Ce n'est pas normal. C'est une violation de leurs droits et nous ne comprenons pas comment on peut justifier ça dans un pays censé être une démocratie. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous nous emportons contre ce qui a été fait.
Pour Thomas Koumoun, coordonnateur de la coalition LIDAO, un regroupement d'associations de la société civile qui intervenait sur un média de la place, les manquements observés lors du recensement dans la zone 1 dénotent de la mauvaise volonté du gouvernement et un manque de transparence.
On constate malheureusement qu'il y a un chaos sur le terrain. La répétition d'erreurs dans les centres nous donne l'impression qu'on est en face de quelque chose qui a été planifié et orchestré pour que les Togolais ne puissent pas s'enregistrer, en tout cas dans la zone 1, et nous nous posons vraiment des questions. Ce que nous constatons à la coalition LIDAO, malheureusement, c'est que on ne veut pas que ce processus se déroule dans une certaine transparence.
Pasteur Edo Komi du mouvement Martin Luther King réclame une autre session de recensement dans la zone 1 pour plus d'équité.
Sincèrement, les choses ne se sont pas bien déroulées, il faut avoir le courage de le dire. Nous insistons sur le fait que le recensement doit être repris dans la zone 1 pour que ces concitoyens qui n'ont pas été inscrits puissent le faire. C'est leur droit le plus absolu.
À la dynamique de la majorité du peuple, on prend les dispositions pour cela. Kafui Adjamagbo.
D'ici là, nous nous anticipons et nous demandons à ces compatriotes de ne pas baisser les bras. Nous allons mettre en place une plateforme qui sera bientôt opérationnelle où ceux qui ont été exclus pourront s'inscrire. Et ensemble, nous allons mener la bataille, comme le code électoral nous en donne le droit, pour qu'ils obtiennent satisfaction.
En Conseil des ministres, en début de semaine, le gouvernement a déploré les dysfonctionnements et difficultés constatées au cours de ce recensement et a appelé les acteurs à tout mettre en œuvre pour apporter des solutions afin que la suite du processus se déroule dans la sérénité. Kossi Wosso, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Chaque semaine, donc, c'est ton genre super fast, super sonique, super rapidos. Vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour. L'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref. Les tout, dont RM Show, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au plus 1-703-350-37-31. Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique Super Rapidos. Jobless. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.